Tournée de tapas pour tout le monde. Les terrasses des restaurants ouvrent aujourd'hui après 7 mois de fermeture. Il pourrait bien y avoir comme un air de fête dans les villes et les villages de la région, et ceci dès la pause déjeuner. Un air de liberté aussi. Bonjour Hubert de Faltan. Merci d'être en studio ce matin et de bonne heure avec nous pour une journée qui s'annonce probablement chargée pour vous. Alors, vous êtes le propriétaire du château de Pontier, c'est près de Cordemarieux. Dans le château, vous organisez des événements, vous avez également un restaurant, le bien nommé Esprit du Sud-Ouest, c'est à Blagnac, et vous fabriquez de la bière, c'est aux frères Brasseurs. Alors, toutes ces casquettes vous valent donc d'être aussi responsable de la branche restauration de l'UMIH, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, ceci pour la Haute-Garonne. Hubert de Faltan, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi comme un petit air de trac chez les restaurateurs à quelques heures d'embaucher?
Le trac, oui, lié à mélanger à l'immense excitation que cela peut apporter après quasiment 7 mois de fermeture obligée. C'était la deuxième refermeture qu'on a connue. Oui, on est tous contents, très, très contents de retrouver nos terrasses, retrouver nos clients, nos habitudes, nos fournisseurs.
Et oui, très contents. Espérons que la météo ne vienne pas gâcher la fête, ça. Hein. Ça risque d'être l'invité de dernière minute.
Oui, mais à Toulouse, le soleil arrive aussi vite que la pluie.
Donc. Ouais. Et alors le trac aussi, c'est parce que peut-être qu'il y a une impatience, c'est ce que vous me disiez en préparant cet entretien, une grande impatience des consommateurs qui se double d'exigences peut-être, hein.
Oui, ils sont très impatients parce que d'abord vivre confiné n'est pas agréable.
Ouais.
Si je parle pour Toulouse, enfin pour le Sud-Ouest, on a cette movida un peu espagnole, cette façon de vivre un peu en terrasse, tard le soir,
passe,
de pouvoir consommer, se retrouver entre soi. En effet, il y a une énorme attente, une énorme envie de retrouver cette vie en extérieur.
Si on veut une place ce soir, il vaut mieux avoir réservé, non?
Oui, je pense. Oui.
Alors, on va rappeler justement les conditions sanitaires parce que ça sera en terrasse ce soir. Conditions sanitaires dans lesquelles le public sera accueilli, Hubert de Faltan.
Alors, les conditions sont très simples. Les terrasses sont ouvertes. Seules les terrasses sont ouvertes à 50% de leur capacité. Et pour les toutes petites terrasses, c'est-à-dire celles moins de 10 tables, ce seront des ouvertures avec des séparations entre les tables. Bien sûr, contrairement à ce qui avait été aux rumeurs qui avaient circulé à droite à gauche, l'accès aux toilettes.
Oui.
Aux commodités des
pratique.
Restaurants est bien sûr autorisé et tous les déplacements au sein du restaurant, donc pour aller à ces commodités, devra se faire avec les gestes barrières, masques, etc.
Ouais. Table de 6 uniquement sur les terrasses, maximum. Ouais, table de 6 maximum. Alors c'est quoi votre, comme représentant des restaurateurs, votre regard sur ces conditions? Est-ce que c'est suffisant, pas suffisant, réaliste, absurde?
Non, pas absurde, c'est insuffisant évidemment, mais c'est déjà bien de pouvoir commencer à réouvrir, à remettre un peu le pied à l'étrier. On aurait pu bien sûr avoir une rouverture générale bloquée genre à fin juin. Non, là, on peut déjà commencer à réouvrir. Beaucoup de professionnels vont en profiter pour commencer à remettre un peu le pied à l'étrier, comme on dit,
ouais.
Tu disais, c'est-à-dire reprendre les habitudes. Retrouver le personnel qui va bien, ils ont retravaillé leurs cartes, on peut pas redémarrer une entreprise après 7 mois de fermeture totale.
Ça doit chauffer au marché d'intérêt national ce matin.
Hein. Ça chauffe partout.
Ça chauffe partout. Alors, est-ce que tout le monde va rouvrir pour autant?
Non,
et c'est un peu là que le bas blesse, et je sais que c'est votre cas. Hein.
Alors, tout le monde ne va pas réouvrir. Premièrement, parce que 30% des établissements ne sont pas concernés par une terrasse. 30% des établissements n'ont pas les conditions nécessaires pour... Enfin, n'ont pas de terrasse. Et certaines terrasses ne sont pas reconnues comme terrasses. C'est mon cas par exemple où j'ai une terrasse plus une pergola, c'est-à-dire qu'une terrasse qui est couverte et elle est fermée sur la moitié de sa circonférence et qu'elle a un toit fixe, elle n'est pas considérée comme terrasse. Mais d'un côté, elle ne fait pas partie de l'établissement, donc c'est un peu bâtard comme situation. Donc pour mon côté, nous à l'Esprit du Sud-Ouest à Blagnac, on ne réouvrira pas parce qu'on a aussi une zone de chalandise qui s'est dépeuplée à cause du télétravail.
Alors, pas de terrasse ou terrasse trop petite, des raisons pour lesquelles, du coup, ça fait quoi? Soit 30% des restaurateurs qui ouvrent ou 30% qui n'ont pas de terrasse?
30% qui n'ont pas de terrasse.
Donc 70% qui vont ouvrir?
Non, 70% qui ont potentiellement la capacité d'ouvrir, mais tous n'ouvriront pas, comme moi par exemple, parce qu'on n'aura pas la rentabilité ou le flux commercial nécessaire. Parce que ouvrir c'est bien, mais si c'est pour perdre énormément d'argent, ce qui a déjà été le cas pendant très longtemps, ça devient un peu inutile.
D'autant que ça ferme à 21h. 21h, c'est presque l'heure du goûter à Toulouse.
À 21h, c'est un peu tôt. On a connu cette contrainte au mois d'octobre, où pendant les deux dernières semaines d'octobre, qui coïncidaient en plus avec les vacances scolaires, on a eu ce couvre-feu à 21h. À partir de 20h, il y avait avait plus personne dans les restaurants. Donc ça, c'est un peu trop tôt.
Alors ouvrir pour y prendre le risque de perdre de l'argent, vous le dites, hein, certains ne le feront pas. Justement, l'état financier des restaurants et bars de la région, de la Haute-Garonne, vous le connaissez. Est-ce que les aides ont été suffisantes? On en a beaucoup parlé, vous en avez beaucoup reçu.
Alors oui, on peut dire qu'on en a beaucoup reçu si on considère uniquement la période du deuxième confinement. Tout ce qui était perdu à partir du samedi 14 mars jusqu'au premier confinement, donc fin octobre, on a eu des compensations qui ont été très très faibles, et ce sont des pertes de chiffre d'affaires et de rentabilité qui sont importantes, des trésoreries qui ont fondu comme neige au soleil et qui seront très très longues à reconstruire.
Est-ce qu'il y a de la casse à prévoir? Et c'est la partie sombre évidemment de notre entretien ce matin qui est sous le signe de la fête, mais on ne peut pas ne pas penser à ceux qui ont tiré le rideau définitivement. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que c'est évidemment ce qu'on peut redouter?
Alors, le nombre de dossiers qui se présentent au tribunal de commerce est de plus en plus important, bien sûr. Il est à savoir que tout le temps du confinement et des aides, il y avait une perfusion qui permettait de limiter la casse. Désormais, avec la possibilité de réouvrir et la baisse des aides qui est programmée jusqu'à fin août, la casse va s'accélérer. Cela dit, avec l'UMIH, avec le tribunal de commerce, on a mis en place une cellule de veille et de crise pour aider, encadrer, accompagner les entreprises pour trouver des solutions avec le maximum d'efficacité. Il faut éviter que les entreprises...
Qu'est-ce que vous allez faire pour elles?
L'écoute, le conseil, trouver des bonnes solutions, les mandats ad hoc, par exemple. Le but, c'est d'arriver au
maximum... Une entraide également?
Une entraide technique, je dirais, dans les moyens juridiques et dans la possibilité de négociation, bien sûr, avec les créanciers. L'objectif, c'est qu'il vaut mieux une dette étalée qu'une dette jamais payée et une entreprise avec des emplois qui disparaissent.
Oui, parce que vous êtes, et c'est votre cas à vous, hein, Hubert de Faltan, vous êtes évidemment le représentant, le responsable de la branche restauration de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Vous avez à votre compte trois entreprises. Vous êtes chef d'entreprise. Ces restaurateurs, ces propriétaires de bars, ce sont des chefs d'entreprise avant tout. Hein.
Ce sont des créateurs d'entreprise, des chefs d'entreprise. Et même si dans certains cas, rares cas, les aides ont été largement suffisantes, le chef d'entreprise concerné avant tout est un acteur actif. Et remplir une feuille ou une aide sur un site internet pour recevoir des aides pour compenser son chiffre d'affaires à la fin du mois, c'est pas son business, ça ne l'intéresse pas. Ce que nous on aime dans ce métier, la restauration, qui est très difficile en plus, l'événementiel, c'est l'accueil, le contact, organiser, monter des cartes, voir la satisfaction sur le visage de nos clients. On aime ce challenge. Tous les matins, on se réveille, on ne sait pas comment la journée va se passer, on ne sait surtout pas comment elle va se finir. Et ça, on aime.
Elle a dû se terminer tard déjà pour vous, quand je vois vos valises sous les yeux qui descendent bien bas, et ça ne fait que commencer. Vous avez fait quoi pendant tout ce temps, Hubert de Faltan, vous et tous les restaurateurs que vous représentez?
Alors, beaucoup de restaurateurs ont profité, comme nous, pour mettre la main dans la peinture, enfin, sur les pinceaux et dans la peinture. Nous, on a repeint l'intégralité de notre établissement, on a changé les moquettes, on a profité de faire des petits travaux que nous faisons nous-mêmes, bien sûr, pour limiter les frais. Beaucoup de restaurateurs ont changé un peu le concept, ont revu leurs cartes. Et beaucoup de restaurateurs ont surtout passé beaucoup de temps à essayer de retrouver une main-d'œuvre qui avait fui sous de meilleurs auspices, qui avait fui notre métier pour trouver d'autres jobs, mais qui aussi ont découvert une autre façon de vivre.
Et oui, effectivement, hein, vous faites allusion à ce qu'on entend beaucoup, hein, à savoir que la main d'œuvre, effectivement, c'est dispersée et que c'est une difficulté pour vous. Je crois que vous avez été globalement assez surpris de cette réouverture ce 19 mai. Vous aviez imaginé que ça serait peut-être plus tout d'un coup, mais plus tard. Donc c'est aujourd'hui la réouverture des terrasses, ce qui vous a un peu pris de court. Et on entend beaucoup, effectivement, que la main d'œuvre, ces personnes, ces serveurs, ces serveuses qui travaillent dans les restaurants, dans les bars, on a du mal à remettre la main dessus, c'est ça?
Oui, tout à fait. On était déjà en déficit d'embauche chaque année au sein de nos métiers pour la France. C'est-à-dire, on avait un déficit de quasiment 200 000 personnes qui manquaient.
Ah oui.
Oui, c'est énorme, surtout de la France. Ça fait globalement une personne par entreprise qui manquait, puisqu'on est à peu près 200 000 restaurants en France. Des personnes qualifiées, donc chef de cuisine, jusqu'au plongeur, qui fait partie comme de la chaîne logistique du restaurant. Beaucoup de personnes ont quitté le métier et on va avoir beaucoup de mal à les récupérer, à les retrouver. Alors, on parle bien sûr des problèmes de salaire. La plus grande partie de ces personnes qui ont fui nos métiers, qui ont quitté nos métiers, qui sont partis sur autre chose, parce qu'ils n'avaient aucune perspective pendant tous ces temps de fermeture, ce n'est pas le salaire qui les a fait partir. Ce sont les conditions de travail.
Ah oui.
C'est-à-dire que quand vous découvrez, quand vous passez 20 ans de votre vie à travailler en coupure, comme on dit, donc matin et soir, et puis que du jour au lendemain, vous découvrez un métier où vous pouvez travailler 8 heures consécutives dans la journée, et puis qu'à 20 heures, vous êtes à la maison, que vous avez vos week-ends, etc., vous découvrez une autre vie aussi.
C'est ça, donc ces personnes qui avaient l'habitude de travailler avec vous en restauration, qui ne connaissaient peut-être pour certaines que ça, ont découvert à la faveur de cette crise, parce qu'elles ont retrouvé, elles ont dû retrouver un autre métier, ont découvert des horaires tout autres,
et
ont pris goût.
Énormément en pris goût d'une autre vie de famille, une vie sociale. Alors ça nous amène énormément de problèmes, particulièrement sur la partie technique en cuisine, où la difficulté d'avoir des personnes qui maîtrisent les techniques. Donc il va être de plus en plus difficile de trouver des gens qui vont nous permettre de faire du fait maison. Parce que l'avenir va être là. Si on n'a plus personne qui sait cuisiner, on va faire comment pour remplir les assiettes. Chacun imagine son scénario, mais je pense que on ira de plus en plus, malheureusement, dans un sens, je dirais, parodie un peu on sera des restaurants Tricatel. C'est-à-dire qu'on servira de plus en plus, on fera confiance à des industriels qui remplaceront cette main-d'œuvre technique que l'on ne trouvera plus.
Ah bah non, j'espère que non.
Nous allons nous battre pour évidemment ne jamais aller vers là.
Et se battre, c'est effectivement l'opération que vous menez en ce moment, tous mobilisés pour l'emploi et l'hôtellerie restauration avec Pôle emploi, le MEDEF et la CPME, une opération avec l'organisation de cafés emploi, des ateliers pour essayer justement de remettre la main sur cette main-d'œuvre. Toutes ces informations sont à retrouver sur le site de Pôle emploi. Vous qui nous rejoignez, nous sommes en compagnie d'Hubert De Faltan, qui est responsable de la branche restauration de l'UMIH, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie pour la Haute-Garonne. Évidemment, on fait droit à l'information du jour. Les terrasses vont rouvrir, on va tous se ruer ce soir, et dès l'heure du déjeuner dans les restaurants, dans le respect des gestes barrières, bien sûr. Et jusqu'à 21h, bien sûr. Hubert De Faltan, faisons un petit parallèle avec le cinéma. On entend beaucoup également que peut-être dans les cinémas, le public aura pris d'autres habitudes, la VOD aura peut-être supplanté les séries, Netflix, tout ça. Vous, il n'y a pas de risque, vous ne retrouviez pas votre public. Finalement, rien ne remplacera jamais une petite sortie au restaurant.
Vous avez tout à fait raison. Le restaurant, ce n'est pas qu'une assiette, c'est une ambiance, c'est un accueil, c'est un service, c'est un lieu, c'est un lieu que... En France, on peut considérer cela comme un lieu culturel.
Bien sûr.
Vivement
dans le sud-ouest,
qu'on puisse retrouver la possibilité de consommer debout, au comptoir, sur les tonneaux. Enfin.
Oui, quand je vous vois, je me dis que vous mangez pas que des brocolis, vous. Hein.
Non, pas du tout. Jamais d'ailleurs.
Public est fidèle, il reviendra.
Notre public est fidèle, même si il a découvert, avec tous ces confinements, une autre façon de consommer un peu le restaurant à la maison, notamment par le biais des plateformes de livraison, Delivery, Deliveroo, Uber Eats et tout le reste, et l'apparition de Dark Kitchen. Dark Kitchen.
Des cuisines sombres.
Oui, donc ils sont dans les arrière-cours. Des cuisines qui n'ont pas de salle de restaurant, qui ne font que cuisiner et qui n'existent qu'au travers de sites internet comme les plateformes de réservation.
Donc des laboratoires, en fait, qui font la cuisine et puis après, il y a des hommes en vélo, des livreurs à vélo qui apportent ça à domicile, c'est ça?
Exactement, des livreurs qui font partie de ces plateformes. Ce que nous, on considère un peu une nouvelle forme d'esclavagisme. Oui, ça, c'est un autre débat,
ouais.
Dans lequel, donc, c'est Dark Kitchen. Il suffit de quelques dizaines de mètres carrés et vous pouvez mettre 4 ou 5 cuisiniers qui vont chacun cuisiner pour 4 ou 5 types de cuisine différents et ne sera visible que sur Internet.
Et ça peut être pour vous une forme de concurrence? Quelque chose à laquelle il va falloir vous adapter, peut-être même être une opportunité, peut-être ?
Non, pas une concurrence, une opportunité. On a un nouveau marché qui est né, c'est à nous, bien sûr, chez l'entreprise, de le saisir. Si beaucoup de clients vont apprécier d'être livrés chez eux, ça n'enlèvera pas, bien sûr, le plaisir qu'ils retrouveront de s'installer à une terrasse ou dans une belle salle avec un service et du personnel qualifié. capable de leur amener une prestation de qualité. Mais ce sera peut-être aussi de, le fait de cuisiner à la maison qui sera moins
évident. Non, je vous assure, c'est jamais pareil.
C'est jamais pareil. Et donc, rapidement, en un claquement de doigts, avec un smartphone, ouais. On se fait livrer
oui, mais il faut faire japonais, Oui, mais il faut faire la vaisselle après. Et ça, ça au restaurant, on ne la fait pas.
C'est du jetable.
Ah, c'est du jetable, oui, bon.
Mais voilà.
Est-ce que le télétravail aussi a changé les pratiques et risque de faire baisser la clientèle?
Le télétravail, alors ça, c'est, je vais en parler parce que je suis avec mon restaurant à Blagnac vraiment impacté
mais
par
oui.
le télétravail. 90% de ma zone de chalandise, c'est-à-dire que j'irai les 1,5 km autour de mon restaurant, actuellement, ont les parkings remplis seulement à 10%. Ça veut dire qu'il y a, ouais. on a beaucoup de SS2I, de sous-traitants d'Airbus, dans l'informatique, société de services et d'ingénierie, dont le travail au bureau n'est plus une constante garantie. Il est vrai qu'on découvre aussi que lorsqu'on peut mettre 30% de son personnel en télétravail 2 jours par semaine, ou 3 jours, ou ne serait-ce qu'un jour, on peut réduire les surfaces de bureau. Et les loyers, la crise, tout cela va amener à manager différemment ses équipes. Alors il y aura peut-être moins de salariés par entreprise dans les bureaux, mais ça va libérer des bureaux pour mettre peut-être d'autres entreprises. Donc il faut le temps que cela se reconstruise.
Et s'adapter et être agile comme vous en avez déjà fait preuve. Merci infiniment Hubert de Falten d'être venu vous voir à l'aube de cette grande journée qui s'annonce. Journée de réouverture des terrasses, profitez-en, mais rappelons quand même que l'alcool est à consommer avec modération. Et pour ceux qui ne seront pas ouverts aujourd'hui, vous pouvez compter sur nous le 9 juin. Merci à vous.
Merci beaucoup.